intéressant en introduction, et le titre, ça pourrait être « Comment connaître un véritable changement ?» Parce que le véritable changement de notre vie, c'est le fondement de la vie chrétienne, en fin de compte. C'est devenir, en fin de compte, ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pas devenir ce que nous entendons par la parole, c'est devenir réellement ce que Dieu veut que nous soyons. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir conscience de nos faiblesses, de la nécessité d'être façonné par Dieu, c'est-à-dire transformé par Dieu. Et il faut être humble pour nous approcher de lui et de savoir surtout qu'il est capable de le faire. Est-ce qu'on a conscience de ces choses ce matin ? En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La transformation, elle a lieu là, à ce moment précis. Et Dieu nous façonne par sa parole. C'est pour ça qu'on insiste souvent dans cette église de méditer la parole. C'est pas seulement la lire, comme faire son devoir. Et c'est de méditer. Si on lit un verset par jour, c'est pas grave. Mais si on a passé des heures sur ce verset, c'est magnifique. Et en fin de compte, la parole de Dieu nous permet d'avoir conscience de nos faiblesses, d'avoir conscience des choses qui ne sont pas droites dans notre vie. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, nos yeux s'ouvrent aux merveilles de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la pureté de Dieu. Et ce qui fait que, en fin de compte, naturellement, on s'incline, on se prosterne devant Dieu et on avoue nos péchés. Parce qu'on se sent sale devant ce merveilleux, devant ce saint, devant ce pur. Et on sent cette envie, cet intérêt et surtout cette obligation d'être transformé. Et bien sûr, c'est sûr qu'il faut prendre conscience de ses défauts. Moi, j'en ai. J'en suis conscient. Et tous les jours, je prie pour ses défauts. Ah, le Seigneur, si vous saviez le nombre de défauts qu'il m'a enlevés. Mais je dis aussi souvent, c'est que j'aime à dire que je suis loin d'être parfait. Parce que si je commence à dire que je suis parfait, ça veut dire que je suis en train de vous dire que je n'ai plus besoin de Dieu dans ma vie. Je suis loin d'être parfait. Et merci Seigneur, parce que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Donc on a nos défauts, on a notre mauvaise conscience, et nos mauvaises attitudes. Et en Jean 8, 12, il est dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils marchent dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher loin de la présence de Dieu, loin de la paix de Dieu et surtout loin du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, en fin de compte, c'est ce pardon qui nous lave. Est-ce que vous avez vécu le pardon de Dieu dans votre vie ? Si vous l'avez vécu, vous devez savoir ce que c'est de ce poids énorme qui part d'un seul coup. Et cette sensation d'être un nouveau-né, c'est ça le début du changement. C'est cette sensation d'être un nouveau-né en Christ. En fin de compte, on a besoin de ce pardon pour marcher dans la lumière. Si on n'a pas ce pardon, on est dans les ténèbres. On a besoin de ce pardon pour être lavé de nos iniquités. Une prière suffit. Dieu l'entend et comme a dit Alex, il y répond. En Hébreux chapitre 10, verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. « Je prends ton ardoise et j'efface. » Vous imaginez ? Vous pouviez avoir fait le pire des péchés, la pire des abominations. je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Moi, je trouve ça fantastique. Combien d'hommes, comme l'a dit notre sœur Rolande, ont du mal à pardonner? Combien d'hommes? Il est hors de question que je lui pardonne, parce qu'il ne sait pas, ou elle ne sait pas, le mal qu'elle m'a fait. Mais le mal que tu fais à Dieu, est-ce que tu en es conscient? De par ton attitude? C'est ce que j'ai envie de leur dire. Mais c'est tellement triste. Et on doit aussi comprendre que quand on a pris conscience de ces choses, on ne doit plus reproduire ces choses, les mêmes erreurs. Jésus a dit à la femme adultère qu'il ne la condamnait pas. Ah, c'est beau, Jésus ne la condamne pas. Alors que nous, on est premiers à condamner. Et puis on oublie la dernière petite chose qu'il a dite qui est énorme. Va et ne pêche plus. Si on a reconnu ses erreurs, on ne doit pas retomber dans ses erreurs. Et même si on retombe, c'est se mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, pardonne-moi encore. Que ta grâce encore soit sur moi. Je ne suis pas en train de vous dire que, c'est ce que j'ai expliqué, il y a une différence entre pratiquer et chuter. On peut chuter. Encore faut-il qu'on reconnaisse qu'on a chuté. Parce qu'il y a des gens qui chutent et tout va très bien. Ils ne demandent même pas pardon à Dieu. Mais c'est reconnaître, Seigneur, j'en ai marre. Il va répondre. Il faut s'abandonner à Dieu. Surtout pas rechercher la transformation par nos forces. Parce que comme j'ai dit ce matin, chasser le naturel, il revient au galop. Trouvez-moi quelqu'un qui a réussi à devenir bon. Trouvez-moi quelqu'un qui arrive à ne plus être colérique. Si c'est dans sa nature, il va peut-être réussir une heure, deux heures, une journée, deux jours. Et d'un seul coup, il y a un truc qui va être plus fort que lui, ça va exploser. C'est impossible. Il faut être humble et accepter que Dieu nous façonne. En 1 Pierre chapitre 5 verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soyons humbles ce matin, mes frères et sœurs. Et comme l'a dit Alex, Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous, et rien ne peut l'arrêter. Rien. Et aucune difficulté qui se présente à nous n'est assez grande pour le plan de Dieu. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. On doit se lever dans nos vies et laisser Dieu agir, prendre les rênes de notre vie et avancer. Avancer. La Bible nous dit, face à l'aveugle, en Marc 10, 49, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il y a l'obéissance, je me lève. Il y a cette volonté d'avancer, il est allé vers Jésus, tout aveugle qu'il était. Mais il s'est levé déjà. Est-ce qu'on n'est pas assis dans nos vies? Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il connaît parfaitement ta vie, comme il connaît parfaitement ma vie. Et il connaît notre vie et nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que lui connaît l'avenir. Nous, on n'a aucune idée de ce qui nous peut nous arriver, même dans une heure. On n'a aucune idée. Il te dit ce matin, prends courage. Lève-toi, je veux te rencontrer. Même si ça fait des années qu'on est chrétien, et encore plus si ça fait des années qu'on est chrétien, je dois me lever et rencontrer mon Jésus. Cette transformation peut se réaliser que si Dieu, on laisse Dieu agir dans nos vies, dans notre vie. Et souvent, ce qui bloque, c'est la désobéissance. On a beau avoir toute la volonté du monde de dire, bah oui, j'ai décidé, je vais. Mais est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va se lever? Est-ce qu'on va rester debout? Est-ce qu'on va avancer? Le plus bel exemple, et j'aime le citer, c'est le peuple de Dieu devant la mer Rouge. Dieu, l'Éternel a dit qu'ils avancent. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si vous vous trouvez devant un ravin et Dieu vous dit « avance ». Le peuple a obéi, il a avancé. Et parce qu'il a fait ce pas, ce petit pas, et au moment, je présume, où il a fait ce pas, la mer s'est ouverte. Il a obéi. Le peuple a obéi. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans le désert parce que le peuple désobéissait, ils sont restés longtemps dans le désert à cause de ça. Hein. 40 années à cause de ça, de la désobéissance. La chose la plus efficace, et ça a été dit ce matin en présentation, c'est laisser l'esprit agir dans notre vie. Laisser l'esprit souffler dans notre vie. Sur nos ossements desséchés. Est-ce que ce matin je me vois mort en Christ ou vivant en Christ? Il ne faut surtout pas laisser, et ça j'insiste, parce que c'est le malin se sert énormément de cela, de la religiosité, en nous faisant croire que. Mais si Dieu t'a dit d'aller à l'église tous les dimanches, vas-y. Ah, tous les dimanches, on peut se retrouver à l'église, mais qu'est-ce qu'on fait du reste de la semaine? Est-ce que notre vie est un poteau indicateur? Ou est-ce qu'on est comme le monde? Si on ne prend pas conscience de ces choses, c'est nos corps vont rester comme des eaux desséchées dans la vallée, sans vie, et sans vie pour l'éternité. La prière de ce matin doit être « Seigneur, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit pour que ton esprit éclaire mon âme. Pour que ton esprit me donne ta lumière. Pour que ton esprit éclaire ma vie et m'empêche d'être ce que j'ai toujours été. » On doit demander cela pour voir la lumière de Dieu dans notre vie. On doit s'humilier devant lui. On doit lui demander pardon, comme notre sœur l'a dit. En premier lieu, ce n'est pas à ceux qui nous entourent. En premier lieu, c'est à Dieu qu'il faut demander pardon. Je te demande pardon pour cette vie que j'ai menée, pour cette mascarade qui était ma vie chrétienne depuis tout ce temps. Vous savez qu'on devrait voir des miracles au milieu de notre Église. Pourquoi ça existait au temps de la parole? Pourquoi ça n'existe plus dans nos Églises maintenant? Et quand je vous dis ça, je me mets en premier, en tant qu'ancien dans l'Église, responsable. C'est pour ça que je vous dis que je suis loin d'être parfait. Mais on devrait voir des miracles. On devrait voir les gens venir dans notre Église tomber à genoux, avec la repentance sur les lèvres. Donc avant d'accuser le monde, il faut regarder notre vie. Avant d'accuser ces gens qui vomissent sur Jésus, est-ce que moi, par mon comportement, je ne vomis pas sur Jésus? Parce que bien plus grave encore, j'ose annoncer que je suis chrétien. Et ma question est la même qu'en Ézéchiel chapitre 37 verset 3. Fils de l'homme, ces eaux revivront-ils? L'Éternel me pose la question. Est-ce que tu peux revivre? Une seule réponse, la même. Seigneur, Éternel, toi, tu le sais. Tout va dépendre de mon attitude, tout va dépendre de mon humilité, tout va dépendre de ma demande de pardon, tout va dépendre de comment je vois Dieu. Quand on voit que dans l'Ancien Testament, ceux qui approchaient dans le lieu très saint et qui n'étaient pas dévoués à ces choses-là mouraient instantanément. Ça veut dire que la présence de Dieu est immense, énorme. Et est-ce qu'on sait que la mort de Christ fait qu'aujourd'hui on peut se présenter devant Dieu à condition d'être en Christ? Parce que Christ nous voit, Dieu nous voit comme au travers de Christ, il voit l'image de Christ, il devrait voir l'image de Christ. S'il ne voit pas l'image de Christ au travers de nous, on va subir la colère de Dieu. Le plus beau la plus belle chose que je pourrais vous dire ce matin, c'est que peut-être aujourd'hui, Dieu vous voit comme des eaux desséchées, mais demain, il va souffler sur ces eaux. La chair va repousser, le sang va couler et vos vies vont prendre forme. Ça ne sera plus la vie qu'on a connue, ça sera la vie de Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui aura insufflé dans votre vie. Ce n'est plus l'Esprit de votre ancienne vie, ce n'est plus l'Esprit du monde. C'est l'Esprit de Dieu, pur, efficace, qui va faire que aujourd'hui, comme demain, dans la tempête, vous allez tenir debout. Vous allez être ce phare qui va éclairer le bateau en détresse au milieu de l'océan. Parce que combien de gens sont en détresse dans ce monde? Combien de gens attendent qu'on se lève pour prier pour ces gens? Même dans la vallée du désespoir, Dieu élève une armée et on est cette armée. On a ce matin chacun à se lever et à chacun avancer. C'est ce que Jésus nous demande ce matin. Lève-toi, il t'appelle. Amen.